Vous avez consacré plusieurs années de votre vie à étudier Saint-Paul. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans sa vie, dans son parcours ?
Écoutez, je ne peux pas dire que j'ai étudié Saint-Paul pendant toute ma vie, mais parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais il m'a intéressé pendant 40 ans. Et à l'origine, c'est un ami, nous étions jeunes, nous devions avoir 18 ans, nous étions croyants l'un et l'autre, et nous faisions partie de la JEC, c'est-à-dire la jeunesse étudiante chrétienne. Et cet ami, alors que nous parlions des sources, vous savez, les jeunes se passionnent pour des sources, et notamment pour les sources de leur religion. Et cet ami m'a dit, mais est-ce que tu sais que saint Paul n'a jamais rencontré Jésus ? Ça m'a beaucoup frappé. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, saint Paul a été présent dans mes réflexions, alors que j'écrivais bien autre chose, que je faisais des émissions de télévision, etc., etc. Et comme je voyageais beaucoup, j'ai peu à peu découvert les lieux où habiter et passer ou résider Saint-Paul. Et puis un beau jour, j'ai décidé de, ayant accumulé beaucoup d'impressions, d'écrire un livre sur lui. Alors c'est là maintenant, à partir de ce moment-là, que j'ai étudié Saint-Paul. Alors ce qui m'a frappé dans le personnage, c'est d'abord l'extraordinaire, antithèse que lui-même représente, juif affirmé, ayant étudié longuement sa religion avec un professeur éminent, et tout à coup, après lui-même avoir persécuté les premiers chrétiens, il le dit dans ses lettres, dans ses épîtres, il en a eu du remords, il a, avec une sorte de commando, balayé la ville de Jérusalem, arrêté les chrétiens, il y a même un mot tout à fait qui laisse angoisser, et peut-être a-t-il même tué. Bon, et puis, il rencontre, c'est la rencontre de Damas, et il rencontre ce Jésus qu'il a persécuté, la personne des chrétiens, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Et là, d'un seul coup, eh bien, la force de cette rencontre le change du tout au tout, et il va devenir l'apôtre, comme je dis dans mon livre, le livre que je lui ai consacré, apôtre autoproclamé. Il n'est pas un des apôtres que Jésus a désigné. Mais c'est tout comme. Et là, il va devenir l'agent sans doute le plus important du christianisme qui est en train de naître. Alors c'est ce qui me frappe, le persécuteur devient en quelque sorte le propagandiste, je mets le mot entre guillemets, le propagandiste le plus important des débuts du christianisme.
Justement, vous l'avez dit, il n'a jamais connu le Christ. Comment pouvait-il en parler justement, aussi justement que dans ses épîtres ?
Écoutez, c'est une des grandes questions. Une des grandes questions. Quelqu'un a dit, et quelqu'un a écrit avec beaucoup d'audace, si je ne cite pas son nom, c'est parce que malheureusement il ne revient pas à l'esprit, il a tout appris en un instant. Mais ensuite, il faut reconnaître qu'il est allé à Jérusalem, et là, il a rencontré, mais plusieurs années après. L'étonnant, il y a beaucoup de questions, vous savez, qu'on se pose. Pourquoi, après ce moment énorme, immense pour lui, il le ressent comme immense ? Eh bien, pourquoi ne court-il pas à Jérusalem pour dire « voilà, je m'étais trompé, le Jésus, etc. » Non, il n'ira que 3 ans après. Ça, c'est quelque chose de très surprenant. Et là, il va rencontrer Pierre et Jacques, qui y habitent toujours Jérusalem, et là, il va leur parler. Donc, il apprend les grandes lignes de Jésus. C'est tous, finalement, ce qu'il apprendra comme homme, comme historien, comme quelqu'un qui veut savoir. Ça n'est pas grand-chose. On ne peut pas dire que cette rencontre, on peut imaginer que Pierre et Jacques, dans cette petite communauté, avaient beaucoup fort à faire, et que ce jeune homme inconnu qui arrive, ils n'ont pas dû lui consacrer beaucoup d'instants. Bon, mais alors, à partir de ce moment-là, il est à fond dans cette mission qu'on lui a confiée, qui lui a été confiée sur la route de Damas. Alors, certains ont considéré cela avec une grande audace. Vous savez, Rémarus, qui fut un philosophe assez important du XVIIIe siècle, a dit fondateur du christianisme, initiateur. Et Nietzsche, au XIXe siècle, a dit fondateur. Évidemment, on peut accueillir cette audace, parce que c'est vrai que bien avant les évangiles s'étalent, d'après les historiens, au premier siècle, à partir de 50 jusqu'à la fin du siècle, mais c'est bien avant saint Paul. Ces lettres vont courir la région, une région étalée, puisqu'il y a aussi, il y aura la Grèce, il y aura, quand il passera en Europe, eh bien, ces lettres sont les premiers signes, les premiers rapports sur le christianisme. Il ne s'attache pas dans ses lettres à la personne de Jésus, c'est vrai, mais à son enseignement, à ce qu'il a reçu de Jésus. Et c'est cet enseignement qu'il va transmettre au cours de toutes ses missions, et pour lesquelles il souffrira, parce que c'est un homme qui a payé très cher ce choix. Il a été lapidé, il en a survécu, il a été flagellé, il a passé de longs mois et peut-être des années en prison. Bon, tout ça, il a reçu, et finalement, il va en mourir, puisque à Rome, il sera décapité pour avoir contredit la religion officielle de Rome. Tout cela fait que... c'est pas classique, n'est-ce pas ? Il faut bien dire, c'est pas une vie classique du tout. On a la vie de saint qui sont entièrement classiques, avec un début. Là, c'est une vie, pardon, anarchique. Elle n'a pas le sens concret qu'on voudrait lui trouver. Mais enfin, là où son rôle historique devient capital, il se passe des années entre-temps. Et c'est que à Antioche, où qu'il va rejoindre, il y a une colonie chrétienne, n'est-ce pas, qui est née du fait que les amis d'Étienne, celui qui a été lapidé, c'est le premier martyr chrétien, eh bien, on fuit, on préférait quitter Jérusalem pour aller à Antioche. C'est une colonie très sérieuse là, à Antioche. Et il s'y rend, il y est appelé d'ailleurs par un ami qui s'appelle Barnabé. Et là, à Antioche, il se rend compte que ce qu'ont fait jusqu'ici les premiers chrétiens n'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'ont fait les premiers chrétiens ? Pas nombreux, vous savez, très peu nombreux à Jérusalem. C'est une petite colonie. On nous dit, les Actes des Apôtres nous disent que le jour de la Pentecôte, ils sont quelques milliers. Les historiens ont tendance à dire quelques centaines. Bon. Et là, à Antioche, il comprend que ce travail acharné qui a été fait depuis la mort et la résurrection de Jésus, travail acharné de ceux qui avaient connu Jésus, de ceux qui voulaient enseigner à leurs frères juifs qui avait été Jésus, ce qu'il avait annoncé, c'est un travail immense. Mais pendant des années, ils ne vont s'adresser qu'aux autres juifs. Parce que les autres juifs n'avaient pas connu Jésus. Et pour eux, juifs convertis par Jésus, il fallait que les autres le sachent. Et on n'a fait que ça pendant des années. Et c'est à Antioche que Paul va comprendre qu'il y a autre chose à faire. Que c'est très bien que beaucoup de Juifs se rallient à Jésus, mais ce qui est mieux encore, c'est que Jésus ne s'est pas seulement adressé aux Juifs. Dans plusieurs de ses paroles, on sent l'universalité de ce qu'il annonce. Alors pour Paul, il faut s'occuper aussi des païens. Alors les païens, c'est un mot célèbre que tout le monde a entendu et compris. Les païens, c'est tout simplement ceux qui sont de la religion officielle de Rome et de la Grèce d'ailleurs. Alors il faut s'adresser, il y a là une masse immense qui dépasse de très très loin ce que peut représenter la judaïté, et alors ces gens-là, il faut leur parler. C'est là que commence la grande histoire de Paul. Il faudra qu'il convainque de son analyse, il faudra qu'il convainque les chefs, les maîtres de la religion chrétienne, qui sont toujours à Jérusalem, et il va aller voir Pierre et Jacques qui est en quelque sorte le successeur de Pierre. Il va les convaincre.
C'est le premier des missionnaires, en quelque sorte.
Oui, c'est le premier des missionnaires. Mais là aussi, c'est l'homme qui se fait donner par les successeurs de Jésus, les apôtres, qui se fait donner une mission très difficilement. Parce que la ligne, c'était de s'adresser surtout aux Juifs. Et quand même, avec beaucoup de mauvais gré, il repartira avec une lettre qui est publiée par Luc et qui dit, c'est un document d'archives, on n'en a pas beaucoup pour cette époque, qui donne l'autorisation à Paul et Barnabé d'aller enseigner les païens. Voilà. Alors à partir de là, je ne vais pas vous raconter sa vie, elle est connue, mais c'est un personnage hors de toute mesure. Moi, il me laisse encore, alors que j'ai passé plusieurs années avec lui, évidemment, c'est une image, et il me laisse toujours interloqué. C'est quelqu'un qui surprend, mais on est là devant lui un peu figé, comme on serait devant un peu une montagne. Je l'ai cru longtemps, je l'imaginais, vous savez, à cette époque-là, aucun texte, pas seulement juif, mais aussi dans l'Antiquité, on ne dépeint pas les gens, on ne les dépeint pas, ça ne se fait pas du tout. Dans les textes grecs, dans les textes latins, on ne dépeint pas, ou rarement. Donc, il n'y a aucune peinture officielle de Paul, alors qu'il y a tellement de statues un peu partout dans le monde. Mais je l'ai toujours imaginé très grand et ayant, si vous voulez, la carrure et en même temps le ton, la voix d'un grand orateur. Eh bien, je vous disais qu'il n'y a pas de peinture. Il y en a une quand même, il y en a une dans les Actes de Paul. Les Actes de Paul, c'est un apocryphe du début du IIe siècle. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les historiens se penchent vers les apocryphes parce qu'il y a toujours quelque chose à trouver dans les apocryphes. Il y en a qui sont fous, qui sont complètement hors du temps et de la logique, mais on trouve, et on le fait, les historiens se penchent pas mal sur les apocryphes. Alors là, il y a une peinture, il est tout petit. Alors ça, c'était une déception pour moi. Et en même temps, il est un peu chauve déjà, quand l'auteur des Actes de Paul l'a rencontré. Voilà. Alors autrement, c'est vraiment c'est le carrefour. Pour moi, Paul, c'est le carrefour du christianisme.
Le pape a choisi de faire de l'année qui vient une année Saint-Paul. Quel est le message aujourd'hui de cet apôtre? Qu'est-ce qu'il peut nous laisser aux jeunes d'aujourd'hui? Si vous deviez résumer en quelques mots son apport.
Écoutez, je ne peux pas me mettre à la place du Saint-Père, mais il me semble que le pape a pu voir, considérer que le travail est toujours à recommencer. Bon, Jean-Paul II l'avait fort bien vu aussi, c'est que quand Jean-Paul II était venu en France, notamment tout jeune, après son séjour à Rome, études à Rome, il avait été atterré, ça se passe après la Seconde Guerre mondiale, atterré par le fait que cette France, fille de l'Église, avait de gros problèmes. Déjà, fréquentait moins les églises, il y avait des intégristes dans les deux sens, intégristes qui ne voulaient toucher à rien, et intégristes dans l'autre sens avec les prêtres ouvriers, etc. Donc, je pense que le christianisme, et singulièrement le catholicisme d'aujourd'hui, c'est encore un grand, 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 grand travail à faire. Encore, et ce sera longtemps, un grand travail. Alors justement, prendre appui sur Paul, qui a été le premier à s'adresser à la masse des incroyants ou des non-croyants ou des ennemis, des gens hostiles, c'est peut-être la raison, c'est peut-être celle que je crois ressentir.